Voilà, bonjour à tous pour cette session du séminaire du CRAM. Cette session s'inscrit dans le cycle poésie et politique, donc quelques mots rapides hein, sur ce cycle. Comme certains d'entre vous le savent déjà, il va y avoir un colloque au mois de septembre, fin septembre, début octobre, on croise les doigts, à Cerisy-la-Salle, qui portera sur poésie et politique dans les mondes nordiques et normands du 9e au 13e siècle. Et autour de ce colloque, nous avons souhaité, Marie-Agnès, Lucas Avenel et moi, proposer un séminaire qui élargirait la focale, à la fois en termes chronologiques, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais aussi en termes géographiques, et ce sera le cas, en termes chronologiques et géographiques, pour étudier ces rapports entre la poésie, les poètes, les textes poétiques, les œuvres, et puis la politique, la vie politique, les idées politiques de manière générale. Et donc, eh bien, nous avons aujourd'hui la première séance de ce séminaire. Première séance qui donc ne va pas nous faire quitter chronologiquement la période qui sera étudiée à la salle en septembre, puisque nous parlerons aujourd'hui du XIIe siècle. Et nous parlerons du XIIe siècle, en revanche, avec deux amplitudes géographiques très, très différentes. Alors, d'une part, d'abord avec Martin Aurel qui va nous parler de Richard Cœur de Lion. Alors Richard Cœur de Lion, en termes de géographie, ça va nous emmener très près d'ici et très loin d'ici à la fois, puisque nous irons de presque Jérusalem jusqu'à la Normandie et l'Angleterre. Et puis ensuite, Corinne Joanneau nous parlera de Byzance et d'un poète constantinopolitain de la même période, très légèrement antérieure à Richard Cœur de Lion. Alors, je commence par vous présenter Martin Aurel, qui va parler donc en premier. Martin Aurel est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Poitiers. Il est spécialisé plus précisément dans l'histoire du Moyen-Âge central, les 11e, 13e siècles, avec un regard tout particulier, je dirais, sur le 12e siècle. Hein. Je pense ne pas me tromper en disant que le 12e siècle est le siècle central des travaux de Martin Aurel. Martin Aurel a travaillé sur l'histoire sociale, l'histoire politique et l'histoire culturelle de l'Occident dans cette période, de l'Occident au sens large, hein, puisque ses travaux l'amènent du sud de la France jusqu'à l'Angleterre et parfois même plus loin. Je ne vais pas faire la bibliographie complète de Martin Aurel, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Je signalerai simplement en lien avec la communication qu'il va nous présenter, qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages de synthèse ou ouvrages d'analyse sur les Plantagenets, et évidemment Richard Cœur de Lion est un Plantagenet, et puis sur les rapports entre politique, culture, écriture, je citerai son ouvrage « Le chevalier lettré » paru il y a quelques années, qui explore justement cette manière dont les élites, et en particulier donc les élites laïques, l'aristocratie laïque, entretient des rapports avec la culture écrite, et donc, entre autres, avec la poésie. Je vais arrêter là cette présentation, et je vais laisser Martin Aurel nous parler de poésie et politique. La croisade de Richard Cœur de Lion. Martin, la parole est à toi.
Alban, vous m'entendez? C'est bien. Bon, ben, c'est parfait. Merci Alban pour cette invitation et Marie-Agnès aussi. Alban est un collègue d'une générosité incroyable qui ne rechigne jamais à donner de son temps quand on lui demande un renseignement sur les anglo-saxons ou autres dans les minutes qui suivent. Et vraiment, merci aussi pour cette invitation prestigieuse. Donc, je vais vous parler de poésie et politique, et en particulier de 4 années qui ont chamboulé l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de la Normandie, même du Poitou, de l'Aquitaine, de l'Empire Plantagenet, voire de la Terre Sainte. Donc, 4 ans aussi pour lesquels nous avons une quantité de textes poétiques liés à la politique, aux événements, qui est assez impressionnant. Alors, première question qui peut se poser, je vais surtout aborder une politique de nature, une poésie, pardon, de nature politique, donc une poésie qui est conçue, qui est créée, non pas tant pour la fiction, pour le plaisir, pour l'esthétique, que pour faire changer les gens et pour intervenir dans leurs esprits, pour promouvoir une action politique, pour leur faire prendre des décisions dans un sens précis. On appelle cela de l'idéologie, hein, comment, avec des mots, avec des pensées, prendre et garder le pouvoir, comment susciter des adhésions. Le terme de propagande, quelques médiévistes, un peu, disons, revêche, rétif, suranné, trouvé dans les années 60-70, quand le marxisme revu et corrigé par Gramsci et tous ceux qui pensaient que le matérialisme devait être promu par les idées, eh bien, ils ont considéré que c'était une notion trop idéologique, justement, qui ne pouvait pas être utilisée au Moyen-Âge. Bien sûr, on n'a pas affaire à Goebbels, on n'a pas affaire à des grands ministères de la propagande comme on en a vu éclore dans les années 1930 partout en Occident, mais je prends ici le terme de propagande d'une façon très simple, hein, c'est-à-dire un message qui est peut-être émis depuis un centre, en l'occurrence une cour, puisque la politique et la culture profane mélangé de religieux aussi, se trouve dans des cours royales, princières, et puis à partir de ce centre, donc, la diffusion de l'émission de ce message qui est véhiculé par un certain nombre de vecteurs, et notamment la voix, le travail des jongleurs, ou de tout un chacun capable de réciter un poème créé par un autre dans un but politique vers une périphérie. Donc la diffusion, la façon dont ces messages se répandent par la rime, par le maître ou par la mélodie. Alors utiliser des mots pour faire des choses, how to do things with words, c'était aussi très à la mode dans les années 1950 dans la philosophie du langage. Il y a eu un cycle de conférences de John Austin à l'université de Harvard qui s'appelle How to do donc things with words, comment faire des choses à partir des mots, hein. Il y a des mots qui ne servent qu'à décrire ou à imaginer, mais il peut y avoir des mots, ne serait-ce qu'à l'impératif, qui peuvent changer les choses, hein. C'est ce qu'on appelle donc un discours de type performatif qui ne se limite pas à décrire un arrêt ou de type illocutoire. Et là encore, quand on parle de poésie politique, on est dans ce type de discours. Ah, alors, si j'y arrive, on va voir comme ça, ouais. Alors, il y a un terme très précis qui désigne au XIIe, XIIIe siècle la poésie politique, hein, la poésie qui ne parle d'amour mais de guerre, pour faire vite. Un ancien occitan, hein, la langue que l'on parle au sud de la Loire, on appelle cela le sirventès, et plus tard, le terme a été adopté en France, dans la France du Nord, avec sa version en langue d'oïe, sirventoise. Alors le terme sirventès a une étymologie ou une signification qui peut être liée à l'idée de servus, de serviteur. Le sirventes est servile, alors que sert-il? Soit un maître avec un I accent circonflexe, c'est-à-dire un mécène, un patron qui impose a un troubadour, un jongleur, un trouvère. Quand on parle de troubadour, c'est la langue d'oc, c'est le sud de la France. Quand on parle de trouvère, c'est le nord, et donc c'est la langue d'oc. Vous, en tant que Normand, vous parlez ce qu'on appelle au XIIe siècle l'anglo-normand. C'est un dialecte donc de langue d'oïe, ce qu'on parle aussi bien en Normandie qu'en Angleterre, dans l'aristocratie. Et comme vous le savez aussi, les toutes premières œuvres en langue française ont été écrites en Angleterre, un dialecte anglo-normand. Je ne prends qu'un exemple. La première femme à écrire en français, à avoir laissé une œuvre importante, même une œuvre tout court, Marie de France, utilise l'anglo-normand, et elle l'écrit en Angleterre. Bref, donc on a le Cervantès dans le sud ou le Cervantois dans les dialectes du nord, le Picard, le Champenois, l'anglo-normand ou le dialecte de l'Île-de-France qui s'imposera ensuite partout. Alors je reviens à l'étymologie et je vous ai pris un poème d'un troubadour provençal, Pays des Dulans des Pernes, qui écrit « Mon Cirventès, facile et vulgaire ». Alors, il y a de l'autodérision, certes, mais il y a aussi l'idée qu'il n'est pas en train de faire du grand art, de la très haute poésie, mais de la poésie pour faire de la propagande politique, facile et vulgaire, tient le pied sur l'étrier, sur le point de partir. Hein. Je veux l'encocher pour cribler de flèches ceux qui ont mis honneur à bas. Vous voyez cette idée de l'automotion, il peut bouger de par lui-même, il peut se diffuser. Alors, Cirventès, hein, probablement parce que un maître le lui a imposé, un patron, mais Cirventès aussi parce que très souvent, ce poème se coule sur une forme, sur un moule préparé a priori, et encore de nos jours, les humoristes que vous écoutez à la radio font la même chose, hein. La possibilité de prendre un tube, une chanson d'amour à la mode, et de changer tout simplement les paroles, tout en respectant la métrique, le maître avec E accent grave. Donc, vous servez un cadre qui vous est imposé, un cadre formel, pour chanter du politique. Mais ce qui m'intéresse ici aussi, outre l'étymologie, c'est de voir comment ces Cervantes est violent. La plupart du temps, il se fonde sur l'attaque ad hominem, sur l'agressivité. On attaque l'ennemi et je vous donnerai quelques exemples un peu virulents, me semble-t-il, de la poésie de l'époque de Richard Cœur de Lion. Le Cirventès, en latin, un traité de courtoisie, d'amour, de poésie toulousain de 1388. Cirventès est cantio facta vitupelio aliquius. Le Cirventès est une chanson créée pour la vitupération, pour récriminer contre quelqu'un. Et encore aussi un traité méridional. Le Cirventès traite de fait d'armes, de louanges et blâmes de seigneur ou de tout autre sujet d'actualité. Alors voilà un cadre un peu théorique fondé sur des textes médiévaux, sur ce que c'est que la chanson politique au XIIe siècle en Occident. Maintenant, je vais traiter d'un dossier avec des exemples précis. Un dossier qui est riche, un dossier qui est trilingue. Trilingue, vous connaissez déjà deux langues, l'oc, la langue méridionale, et l'oïe, la langue du nord. Richard Cœur de Lion est certes né à Oxford, mais il a grandi à Poitiers. Il était comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, avant de devenir roi d'Angleterre. Il a passé beaucoup de temps avec sa mère Aliénor d'Aquitaine, au palais des ducs, donc à Poitiers. Et c'est un palais qui appartient certes au domaine linguistique encore du Poitevin ou de la langue, disons, du Nord encore, bon, un peu de transition, mais il est très proche du Limousin, il est très proche de territoires où l'on parle la langue du Sud, la langue d'oc. Donc c'est une langue qu'il a entendue aussi par les troubadours, Marcabrus, Cercamone, qui fréquentaient la cour de son grand-père, hein, et au Bernard de Ventadour, plus près de lui. Outre la langue d'oïl, bien sûr, puisque il évolue dans un milieu francophone, hein, il est avec des anglo-normands toute la journée, il parle le dialecte du nord de la France anglo-normand, mais il est aussi extrêmement cultivé et il n'y a pas de compartiment étanche entre la chambre aux dames, où l'on compose de la poésie, la caméra, la salle, la aula, le hall du grand palais des grands palais de Westminster ou de Poitiers ou de Caen, bien sûr, de Richard Cœur de Lion, où l'on interprète aussi des œuvres après le repas. Les tables qui ont été dressées sur des tréteaux sont enlevées pour que les jongleurs ou les interprètes puissent faire leur travail. Et puis, il y a la capella, la chapelle, le monde des ecclésiastiques, puisque toute culture à l'époque est latine et que elle a lieu aussi à la cour princière, cette culture latine qui est à la base de tout. On est en train de commencer à écrire, à coucher par écrit le français, comme je vous le dis, à l'Angleterre au milieu du XIIe siècle, mais le latin reste la langue écrite par excellence. Et Richard, on le verra, est un excellent latiniste aussi. Alors Richard est couronné à la mort de son père, mort qu'il a provoquée d'ailleurs, puisque c'est une famille, la famille des Plantagenets, où tuer les pères ne relève pas seulement de la théorie freudienne. 3 septembre 1589, à Westminster, il reçoit la couronne, et puis aussitôt, il accomplit le vœu de croisade, 1587, bataille de Hattin, et Saladin, donc les Ayoubides, sont en train de reprendre tous les états latins de Terre Sainte. Vous voyez ici en couleur rouge les derniers réduits de la Terre Sainte sur cette carte. Antioche, Tripoli, Jérusalem est tombée dans la foulée de la bataille de Hattin. Et Richard Cœur de Lion donc repart en croisade avec Philippe Auguste qui est jusqu'alors son allié, mais au cours de leur séjour d'hiver en Sicile, hein, où ils attendent les beaux jours, ils se brouillent, alors probablement à cause d'une femme, la sœur de Richard, Jeanne d'Angleterre, qui est la veuve du roi de Sicile, que Philippe aurait aimé épouser, à moins que ce soit la sœur de Philippe, Alice, que Richard décide de ne pas épouser, pour épouser à sa place Bérengère de Navarre, mais je ne peux pas trop entrer dans les détails. Il y a aussi bien sûr la direction de la croisade ou le prestige qu'on peut en tirer, qui est peut-être plus important que les femmes. Et Philippe et Richard se brouillent définitivement, d'autant plus que Richard prend Chypre au Comène, hein, on entendra par le 2 après moi, c'est aussi quelque chose qui ne plaît pas du tout à Léopold, duc d'Autriche, qui, par sa mère, descend des Byzantins. Et là encore, au moment où la ville d'Acre est définitivement prise par les croisés, Richard plante davantage de bannières sur des maisons, sur des butins, que Léopold d'Autriche, qui lui en voudra à partir de là. Vous savez que l'empereur romain germanique est décédé en Cilicie, Frédéric Barberousse, en se rendant aussi à cette croisade. Alors revenons en Angleterre, puisque Richard a eu la mauvaise idée de ne pas enfermer son frère Jean sans terre ou de ne pas l'amener avec lui, et il a confié l'Angleterre à l'un des fidèles les plus chers de Richard, Guillaume de Longchamp. Hein, Longchamp, c'est, si je ne me trompe, en Haute-Normandie, l'évêque d'Ely, donc au sud, dans le Cambridgeshire. Mais Guillaume a beaucoup de mal à s'imposer puisque Jean sans terre fait des siennes avec une partie de l'aristocratie et le chancelier de Richard donc est déposé. Et Jean sans terre profite aussi du retour de Philippe Auguste qui prétexte d'une espèce de coronavirus, bon, il a perdu tous ses cheveux, sans doute c'était un virus assez virulent, pour retourner en France et pour s'entendre, donc, pour être de mèche, de complicité avec Jean sans terre, qui lui rend, en 1593, l'hommage pour la Normandie, qui lui cède donc en théorie. Alors, entre-temps, Richard a de ses nouvelles. Donc, très vite, il pactise avec Saladin. Il a tenu pendant des mois tout seul la croisade. Il a récupéré la plupart des ports du littoral palestinien. Il ne mettra pas la main sur Jérusalem. C'est trop loin de sa flotte puisqu'il a la supériorité maritime. Et il décide de revenir. Pas de chance, tempête. Son bateau est rejeté vers l'Istrie. Et il remonte donc vers le nord à pied. Et c'est là, vous voyez ces images qui sont assez proches de l'événement, hein, qui se trouve dans la description de sa capture par un proche de Henri VI, qui est aussi par sa femme Constance de Hauteville. Oui, c'est normande aussi, comme Tancrède, comme tous les Siciliens. Pierre Déboli qui travaille pour Henri VI et qui nous raconte dans ses images le déguisement de Richard Cœur de Lion, la façon dont il a été pris en dépit de son déguisement en marchant avec un carquois, des flèches, et puis aussi comment l'épée dégainée, donc il accomplit un acte de reddition et comment il rend hommage aussi à l'empereur, en particulier pour la Sicile. Alors la captivité est très longue puisque Jean et Philippe Auguste font tout ce qu'ils peuvent pour le garder. Et ce n'est qu'au bout de 2 ans, mes calculs sont bons, 1194, que Richard n'est libéré. Alors quelques mots sur croisade elle-même et la poésie. Je reviens à la poésie politique. D'abord, il y a eu beaucoup de chansons de croisade pour pousser les guerriers, les combattants, les chevaliers à tout quitter, à vendre leurs biens ou les hypothéquer, à subventionner d'eux-mêmes cette expédition où l'on a 2 chances sur 3 seulement de revenir en Occident, mais c'est un pèlerinage en armes pour des raisons spirituelles, hein, ce qui rend compte de cette mobilisation générale à la nouvelle de la chute de Jérusalem. Il y a eu une masse de chansons qui ont été composées, ce qu'on appelle des chansons de croisade. Ici, je vous en ai donné une dont l'intérêt est, vous le voyez, de comporter des notations musicales. Je vous ai mis la flèche. Curieusement, on l'a conservée dans la page de garde. C'est souvent là où on trouve des choses intéressantes, d'un manuscrit de Benoît de Sainte-Maure, hein, Tourangeau, près de la frontière du Poitou, qui a écrit l'histoire de Troyes, et puis aussi l'histoire de Duc de Bretagne, sous commande d'Henri II et Aliénor d'Aquitaine. Mais vous voyez donc cette chanson, parmi tant d'autres, hein, qui ne sont pas conservées, parce que la chanson est faite pour être récitée, et une fois les vibrations, les ondes de l'air, la voix qui véhicule la chanson, dès qu'elle disparaît, il n'y a plus de chanson, sauf si quelqu'un a eu l'excellente idée de la copier par écrit. Je vous lise une traduction moderne. « Comte ni duc ni roi couronné ne se peuvent à mort soustraire. » Donc chacun d'entre nous est mortel, autant utiliser sa vie donc de façon intelligente, puisque nous devons tous mourir un jour. « Car quand ils ont grand trésor amassé, mieux leur convient à grande douleur s'en défaire. » À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme, dit le Christ, on n'amène pas les trésors à son tombeau, mieux leur vaudrait s'en séparer justement, donc de façon juste, car quand ils sont en la terre boutés, à plus rien ne leur sert, ni château, ni cité. Voilà, vous voyez donc le ton du poème, si vous voulez mourir, autant mourir dignement, pas dans votre lit douillet, mais en donnant la vie pour reprendre Jérusalem. Alors, Richard a composé aussi des chansons, d'abord parce que c'est un excellent littéraire, un excellent latiniste, comme vous tous étudiants de master et de doctorat, sinon vous n'irez malheureusement pas loin dans vos recherches. Il a eu la chance d'avoir Thomas Becket, que son père, enfin, ou des chevaliers très fidèles à son père, assassine le 29 décembre 1170, mais tant qu'il était chancelier d'Henri II, c'est lui qui s'occupait de l'éducation de ses garçons avec ce qu'on appelle ses érudits, hein, un groupe d'intellectuels extrêmement calés, Des exégètes hors pair. Certains d'entre eux connaissaient même l'hébreu, hein, comme Beauchamp, par exemple. Un exemple des personnes que pouvait fréquenter Richard. Richard a une nourrice qu'il a allaitée, hein, qui s'appelle Audierne, qui est très bien connue grâce au Pipe Rolls, à la comptabilité du palais de Westminster. Richard, ou son père Henri II, a payé au frère de lait de Richard, Alexandre Nicam, le fils de Audierne, il lui a payé ses études. C'est devenu un des plus grands encyclopédistes du XIIe siècle, un zoologiste. Vous avez ici une miniature, bon, elle est du XIIIe siècle, d'un manuscrit d'une traduction française de son Novus Aesopus, de son Ésope, de son recueil de fables animalières. Mais c'est le genre de personne que Richard pouvait avoir pour ami, hein, son frère de lait. Richard connaît parfaitement la culture latine. Alors, bien sûr, il peut y avoir un côté flagorneur dans ses témoignages, mais on sait qu'il s'était disputé sur une question de grammaire, sur s'il fallait utiliser coram, la préposition auprès d'eux, avec l'accusatif ou avec l'ablatif. Et le débat linguistique avait pour interlocuteur Richard et rien de moins que l'archevêque de Canterbury. C'est Richard qui a raison. Richard, en Sicile, lors de son séjour dont je vous ai parlé, a eu une très longue conversation avec un théologien à la mode. Finalement, il sera condamné à la 34 en 1215 à cause de son trithéisme historique. Pratiquement pour lui, il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a sa période dans l'histoire. Joachim de Fior. Mais cette conversation de haute volée théologique n'a pu avoir lieu qu'en latin. Donc, c'est des exemples des chroniques des époques, de l'époque qui vous parlent de la maîtrise du latin par Richard. Richard maîtrise aussi le chant. Hein. Un de ses chroniqueurs, Raoul de Coggeshall, vous dit qu'à sa chapelle, il stimulait par ses dons et ses prières les chanteurs dans leur modulation. Il les encourageait à chanter avec plus d'allégresse et marchant partout dans le cœur. Il les incitait à la voix et à la main à faire retentir leur chant plus haut. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai mal placé mon guillemet, mal fait, les guillemets, donc je m'arrête à plus haut. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de compartiment étanche entre le cantique latin et le chant vernaculaire, surtout sur le plan formel, hein, en raison du contrafactum. Très souvent, on utilise des hymnes liturgiques pour utiliser cette mélodie, ces maîtres, ces dreams, pour faire du chant politique. Hein. Il y a un chant cathare, enfin, ou en tout cas très anti-ecclésiastique du Languedoc du XIIIe siècle, très hostile au pape, qui reprend en contrafactum, en contrefaçon, en cantique marial. Hein. Ça vous donne un peu l'exemple de la façon dont ces gens jouent sur l'ironie, sur le plagiat et sur l'humour. Alors, Richard connaît à quelques notions, non, sans doute pas d'arabe, mais il a entendu probablement à la cour de son père, enfin de sa mère, en Aquitaine, où il a eu des échos de la poésie arabe qui a fortement influencé son arrière-grand-père, Guillaume IX, qui est le premier troubadour, donc en Languedoc, connu. Nous ayons une œuvre, puisque je crois que c'est la chronique de Saint-Mexant qui raconte qu'à son retour de la campagne contre à l'Andalus, au sud des Pyrénées, hein, dans l'actuel Aragon, la ville de Barbastro, en 1064, son arrière-grand-père, Guillaume IX d'Aquitaine, a amené des esclaves sarrasines, des chanteuses, avec lui. Et puis Guillaume IX a beaucoup fréquenté l'émir de Saragosse, qui était son allié contre les Almoravides dans la péninsule ibérique, ce qui fait que une des raisons pour lesquelles on est passé probablement de la métrique avec des brèves, avec des courtes en latin, l'hexamètre, à la rime telle que vous la connaissez, avec des syllabes à la fin de vers qui coïncident, Eh bien, c'est par l'influence aussi de la poésie arabe. Or, ce qui est intéressant, c'est que Richard, qui avait peut-être pu entendre ce genre de chant à la cour de Poitiers, au cours des tractations avec le frère de Saladin, Al-Adil, d'ailleurs, qui a aussi demandé la main de Jeanne, mais Jeanne n'en a pas voulu, et elle n'a pas préféré se retrouver avec le comte de Toulouse, comtesse de Toulouse, que dans le harem d'Al-Adil, mais bon, ça c'est une autre question. Vous voyez la pauvre Jeanne combalottée partout, hein. Ses filles, on les marie au gré des alliances politiques. Quoi qu'il en soit, Richard a demandé entendre des chansons arabes, hein, d'après Hymne à la tire, et une femme de sa cour s'est exécutée plusieurs chansons à un instrument à cordes grattées, à une ancêtre de la guitare. Et paraît-il, d'après cette source arabe, d'après Ibn al-Athir, Richard aurait apprécié. Alors, Richard donc maîtrise le latin, le français, peut avoir des notions d'arabe, et il est capable d'improviser des chansons. On a le témoignage de son jongleur attitré, Ambroise, qui détestait les Français, puisque c'était un homme du pays d'Évreux, et qui régulièrement avait vu son pays ravagé, le Vexin, aussi par les troupes françaises. Or, voici ce qu'il raconte, une scène qu'il a contemplée. « Et Henri, le duc de Bourgogne, fit faire une chanson contre le roi, contre Richard Cœur de Lion. » Et la chanson était fort vilaine et pleine de grandes vilenies. Et la chanson se répandit dans l'Ost, dans l'armée. Ensuite, le roi Richard, s'il la rechanta, c'est-à-dire que Richard reprit la même mélodie, le même maître et la même rime, de celle qui le contre-louait, contre ceux qui l'avaient récriminé contre lui, l'avaient critiqué, par pure envie et par raillerie. Vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir cette capacité que nous avons perdue, parce que nous sommes membres de la galaxie Gutenberg et que nous utilisons beaucoup l'écrit, cette capacité de l'oralité, de l'imagination, de l'improvisation de vers, qui est avec un peu d'entraînement dans l'éveil aristocratique, relativement facile pour ces gens. Alors, une fois retourné en Occident de la croisade, Richard a écrit une chanson demandant sa libération. Quand j'ai dit à Alban que j'allais parler de Richard Cœur de Lion, il m'a dit tout de suite « Ah, Janus Homs !» Mais bon, je ne sais pas si tous mes collègues réagiraient comme Alban Gauthier, sachant tout de suite que Richard est l'auteur de cette chanson. Alors, cette chanson, on a cru longtemps, mon maître vénéré, professeur philologue à Barcelone, Martí de Riquet, ou Pierre Bec, qui était mon collègue à Poitiers, jusqu'à il y a peu, il est décédé, hein, c'était des occitanistes. Donc, pour eux, bien sûr, Richard, fils d'Aliénor d'Aquitaine, ne pouvait avoir écrit que en langue d'oc, du sud. Malheureusement, il y a une collègue américaine qui enseigne à l'université de Naples, qui est une excellente occitaniste aussi, Charman Lee, a démontré que Richard a composé cette chanson pour demander sa libération des geôles de l'empereur Henri VI et de Léopold d'Autriche, hein, qui avait été ravi de le capturer. Eh bien, il a composé, c'est sûr, maintenant, hein, la tradition manuscrite, en particulier le prouve, en langue d'oïl. Alors, Janus homme pris ne dira sa raison, aucun homme prisonnier ne saurait évoquer son sort de façon adroite, puisque il souffre comme moi. Mais pour se soulager, pour avoir un peu de confort, pour s'apaiser, il peut avoir une chanson, hein, la chanson, la création poétique comme forme libération mentale ou d'évasion par la fiction, et ils auront de la honte proaidamis mes pauvres sont les dons. J'ai beaucoup d'amis, certes, mais les dons sont pauvres. Ils auront de la honte si pour à cause de ma rançon, je dois être encore captif plus de deux hivers. Vous voyez l'idée de la largesse, de la prodigalité, c'est ce qui fait refait la réputation au Moyen-Âge. Si vous n'êtes pas capable de faire des dons, sur toi votre seigneur, c'est même un devoir féodal, hein, c'est un des cas, des cinq cas, qui permettent aux seigneurs de tailler leurs paysans, la rançon du seigneur, eh bien, si vous êtes radin, vous perdez votre fama, votre réputation, vous sombrez dans la honte. Et pour ces gens, ce qui compte, c'est le regard d'autrui sur tout le reste. Et tout cela le savent bien mes hommes et mes barons, anglais, normands, poitevins et gascons. Bah, tout, nous appartenons, nous les poitevins, et vous, les normands, au même empire plantagenet, que je n'ai un compagnon si pauvre que je l'aurais jamais laissé en prison. Hein. Richard a les mains trouées, il donne, il ne garde rien pour lui. C'est un vrai aristocrate, du moins dans l'image que la poésie de Troubadour, entre autres, donne de lui. Et j'en ai le dit passe pour nul rétrançon, mais encore je suis pris. Voilà. Et c'est les deux vers qui reviennent dans le refrain. Je ne le dis pas pour me plaindre, car je suis encore en prison. Ah pardon, j'ai sauté un vers. Mes compagnons que j'aime, ceux de Caen et ceux du Perche, me dit la chanson, qui ne sont pas sûrs. Hein, là, les canets, vous n'êtes pas à la hauteur, apparemment, pour Richard. Vous n'avez pas assez craché au vacciné, assez donné d'argent, que jamais j'ai eu le cœur faux ni vénal envers eux, hein, ni faux ni vain, s'ils me font la guerre et s'ils me font beaucoup de vilenie, tant que je suis pris. Vous voyez cette idée aussi que il a beaucoup d'ennemis qui sont restés en Normandie, en Angleterre. Nous verrons qui sont ses ennemis et il faut donc qu'il les combatte. Alors, c'est une contrefaçon à partir d'une chanson à danser, une retrouange qui est composée de trois ou cinq strophes et un refrain de deux vers. Pour l'anecdote aussi, puisque le médiévalisme est à la mode, la façon dont le Moyen-Âge a été réutilisé, en particulier pour des raisons politiques, il y a aussi un contrafactum, une contrefaçon architecturale au XIXe siècle, puis sous le nazisme, du château de Trifels dans le Palatinat, où Richard avait été enfermé. Vous voyez la reconstruction au XIXe siècle, grandiose, où les Allemands prouvaient qu'ils étaient capables de mettre en prison les dirigeants anglais, pas n'importe lequel, Richard. Et puis autour de cette chanson, il y a des commentaires, hein, c'est un classique, en particulier en Languedoc, les Vidas, les Radzung, hein, les biographies des troubadours que les jongleurs chantaient avant d'interpréter ou exposaient pour présenter la chanson qu'ils allaient interpréter. Autour de 1260, à Ménestrel, un jongleur de la cour de Saint-Louis écrit. Alors c'est un affabulateur, hein, le ménestrel de Reims, c'est un affreux. Il a dit que quand la mère de Richard Cœur de Lion, la chaste Aliénor d'Aquitaine, est allée en seconde croisade, eh bien elle a eu une aventure, pas avec n'importe qui, son oncle Raymond d'Antioche, c'est banal, mais avec Saladin. Bah, pas de chance, puisque Saladin n'avait que 6 ou 7 ans, il était d'une précocité. Bon, alors parmi les bêtises que Blondel a inventées, si c'est non è vero, bien trovato, hein, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Il a inventé l'histoire du jongleur Blondel qui prend la route à la recherche de Richard Cœur de Lion, qui apprend que depuis 4 ans, il y a un mystérieux prisonnier dans un château en Allemagne. Après avoir obtenu la confiance du Seigneur, il voit une fenestrelle dans le verger. Il entend une chanson qu'il avait composée, un jeu parti, un échange de vers, comme le duc de Bourgogne et Richard Cœur de Lion, mais là c'était pour la haine, Hugues de Bourgogne, ici c'est au contraire pour de l'amitié. Il entend une chanson qu'il avait jadis composée avec Richard, il revient en Angleterre et il aide à négocier la rançon. Voilà, comme ça fait très troubadour 19e siècle, là encore, je me suis permis quelque chose que je ne permettrai pas en TD à mes étudiants, qu'ils utilisent des images anachroniques, mais là, c'est pour vous montrer comment ce thème, au 19e siècle, a pu avoir un côté pompier, troubadour dans l'art aussi. Alors, des troubadours ont voulu la libération de Richard Cœur de Lion. C'est aussi un classique du XIIe, XIIIe siècle, hein, des prisonniers de prestige qui s'arrangent pour qu'il y ait une campagne d'opinion avec, ben nous on signe des pétitions quand quelqu'un, quand un collègue est enfermé en Turquie ou en Iran, mais ce qu'on faisait à l'époque, c'était des chansons qu'on diffusait partout pour obtenir la libération. Hein. Aussi bien un troubadour toulousain, Pays des Vidal, que un moine qui quittait de temps en temps son couvent d'Auvergne pour chanter et rapporter un peu d'argent à son monastère, le moine de Montaudon, ont demandé la libération de Richard dans leur chanson. Et puis aussi, Aliénor elle-même s'est mobilisée, elle a demandé à son porte-plume, Pierre de Blois, d'écrire cette lettre superbe où elle écrit avec les tripes, mais là on est dans le genre épistolaire et non pas dans la poésie, mais c'est superbe, hein, où elle se dit non pas duchesse ou reine d'Angleterre par la grâce de Dieu, mais par la colère de Dieu, et qui dit à Célestin III, qui hésite à excommunier Henri VI, « Rends-moi mon fils hein, », elle parle avec ses tripes de mère. Alors, dans toute cette bande de traîtres où on a vu que Richard plaçait certains vilains de Caen ou du Perche, eh bien, il y a des gens qui lui ont été extrêmement fidèles. Hein, Guillaume de Longchamp. Guillaume de Longchamp est quelqu'un qui sort vraiment du ruisseau. C'est le fils d'un forestier de Conches. Les intellectuels de son temps qui appartiennent à l'aristocratie le détestent. Guillaume de Newborough l'appelle obscuri numinis, de nom obscur. Giraud de Barry, pauper in obscue, pauvre et sans le sou. Et peu avant son départ, Richard Cœur de Lion, peut-être parce qu'il sort du ruisseau et qu'il lui doit tout, lui a tout donné en son absence. Il en a fait son saint chancelier, le grand justicier, donc le responsable de la justice, et il lui a obtenu l'épiscopat d'Ilaye et la légation pontificale pour l'Angleterre. Alors c'était trop pour ses ennemis, souvent dans l'épiscopat, eux, ils appartenaient à la très haute aristocratie. Hugues du Puisay, l'évêque de Durham, depuis 35 ans, alors que l'autre, il vient d'être fait évêque de Ilaye depuis quelques semaines. Et puis, c'est pas n'importe qui, c'est l'arrière-petit-fils de Guillaume le Bâtard, de Guillaume le Conquérant, par sa grand-mère maternelle, Adèle, comtesse de Blois. Autre personnage qui déteste Guillaume, Hugues de Nonant, qui est évêque de Coventry et qui manie parfaitement le latin. Hein, il a écrit un très beau poème, politique aussi, mais le contenu est lamentable. Discat Cancellarius, que le chancelier, dont Guillaume de Longchamp apprennent. Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Ben, il doit apprendre l'image qui est très populaire en Occident, au moins depuis Boèce, mais qu'on a redécouvert au XIIe siècle, l'image de la roue de la fortune. Alors Guillaume sera ferme et fidèle à Richard face à Jean Santerre, face à son demi-frère, face au demi-frère bâtard de Richard, hein, un des fils adultérins d'Henri II, Geoffroy, élu archevêque de York, ça lui coûtera la charge puisque il sera destitué. Ses ennemis diront même qu'il s'est travesti pour s'enfuir à Douvres pour prendre le bateau déguisé en colporteuse. Alors bien sûr, quand vous ratez une et que vos ennemis vous en veulent, que vous êtes perdu, bah vous travestissez au Moyen-Âge, c'est ce qu'on dit de vous, hein, puisque le Deutéronome condamne par la lapidation travestissement. Aliénor elle-même, quand elle a échoué, Aliénor d'Aquitaine, pardon, parce que pour Aliénor, je la connais tellement bien que je l'appelle par son prénom, ça me suffit. Donc quand Aliénor s'est révoltée contre son mari, elle avait avec lui Richard déjà, en 1173-74, qu'elle a été faite prisonnière à Chinon, qu'elle partait vers Paris, où elle voulait retrouver son ex-mari, Louis VII, Eh bien, elle a été capturée, elle était déguisée en homme, bien entendu, c'est ce qu'on raconte. Alors, toute l'historiographie d'il y a piqué à pendre du pauvre Guillaume de Longchamp, Bélois, grosse bête, rhinocéros, rhinocéros, trimembré monstrum, monstre à trois pattes, tyrannus, tyran, voilà, il y a un très bel article de Egbert Turc sur la disgrâce de Guillaume de Longchamp. Mais cet homme restera fidèle jusqu'au bout. Alors pourquoi je vous parle de Guillaume de Longchamp? Eh bien parce que on a deux textes superbes qui prouvent à quoi sert la poésie politique au XIIe siècle et comment elle est véhiculée et qui concernent Guillaume. Dans une lettre d'Hugues de Nonant, on vous dit de Guillaume, pour rehausser sa renommée et pour la diffuser partout, Guillaume s'était préparé des poèmes flagorneur et des chansons flatteuses. Vous voyez, Guillaume a autour de lui des spécialistes de la poésie qui composent des chansons pour le louer. Par des présents, toujours les cadeaux, bien sûr, pour les jongleurs, il avait fait venir du royaume de France des chanteurs et des jongleurs pour qu'ils les chantent sur les places. On disait déjà de partout qu'il n'y avait pas de son pareil au monde. Vous voyez donc ce que Hugues dit, sa réputation est surfaite, il fait de la publicité, il fait de la propagande sur son compte en payant des chanteurs et des artistes qui composent des chansons. Autre langue de vipère, Giraud de Barry, qui a écrit une vie presque géographique de Geoffroy de York, voici ce qu'il dit, « Les jongleurs du royaume de France et les chanteurs mélodieux, que contrôlait Guillaume ?» avait naguère pour habitude d'inventer de nombreux épigrammes et de chansons de propagande à la gloire de son nom. À l'inverse, de nos jours, des hauts personnages, comme Hugues de Nonant, bien sûr, qui maîtrise très bien le latin, fort et lettré, écrivent d'innombrables libelles et des poèmes pour son ignominie et pour sa confusion, mais aussi pour l'exemple des générations à venir. Probablement, il y a un jeu entre, d'une part, la langue vernaculaire vulgaire qu'utilisent les jongleurs de Guillaume, le français, l'anglo-normand, et le latin, bien sûr, qu'utilise le haut clergé, acquis à la cause de Jean sans terre et des ennemis de Richard Cœur de Lion. Alors, juste pour finir, la liste des otages et des fidèles jusseurs que Richard a donné à Henri VI d'Allemagne, de l'Empire romain germanique, pour pouvoir repartir en Angleterre, où il a passé en savon, mais c'est finalement très sympathique, hein, à son frère, c'est Guillaume le Maréchal qui le raconte, ça s'est passé à Bayeux, et bon, il a dit à Jean, bon allez Jean, c'est un grand seigneur Richard quand même, tu es un adolescent, tu as été trompé par tes conseillers, ceux qui paieront, pas toi, bon, très très mauvaise idée. Mais Richard parle encore en avril 1193, peu avant sa libération, alors qu'il est déjà tombé en disgrâce, à Guillaume comme notre très fidèle chancelier. Et puis, il y a une liste de témoins qui me prouve un peu le dernier carré des fidèles qui ont tout fait pour amasser la rançon, à commencer par sa mère, bien sûr. Il y a l'évêque de Limoges, l'évêque de Saintes, il y a donc des Poitevins, Baudouin de Béthune, des Flamands, mais vous les Normands, vous avez toujours eu beaucoup de relations avec les Flamands, et Richard a, par des familles mariées avec des Flamands, beaucoup de relations aussi avec eux, Galeran de Ferrières, Robert de Harcourt, Geoffroy de C, donc là des Normands, et puis à nouveau un Poitevin, Aymeric Vicomte de Thouars, puis des gens des Pays de la Loire, des Ligériens ou des Angevins, Hugues Lebrun, Bellet de Montreuil, Montreuil-Bellet, Jean Prévost, là j'aurais dû faire la recherche, ça peut pas être Doué, ça va me revenir, le trésoraire de Chichester, et puis l'acte qui sait qu'il a écrit matériellement, Guillaume, évêque d'Élie, hein, légat du siège apostolique, notre chancelier, donné à Spire le 5 janvier de la cinquième année de notre règne. Alors, le frère de Hugues de Nonant a refusé de devenir otage de Richard Cœur de Lion, sous prétexte qu'il avait prêté l'hommage à Jean Santerre. Bon, je pense que au retour de Richard, il a peut-être dû un peu souffrir, mais il a joué jusqu'au bout son infidélité envers Richard. Alors, autre anecdote, mais c'est fascinant, hein, ce monde littéraire, un Normand, d'ailleurs un bas Normand, enfin proche du Cotentin, Hugues de Morville, quand il est allé en tant qu'otage à Spire, remplacer le roi, il a apporté avec lui un manuscrit, un Lancelot, et ce manuscrit a été donc le modèle qu'a traduit Ulrich von Zatzehoven pour avoir son Lancelet. Hein. Donc c'est quand même un monde incroyablement intéressant. Voilà. Alors, je vais passer vite puisque j'en suis à 45 minutes. Ce qu'on peut dire, c'est que Richard a écrasé, bien sûr, Philippe Auguste hein, dès son retour et il a récupéré la Normandie et il a eu la mauvaise idée de se battre en Limousin pour reprendre un petit château de Chalut du vicomte de Limoges, vous le savez. Comme c'était une tête brûlée, il est sorti en Saint-Aubert, en chemise de nuit, avec son écuyer qui était à moitié endormi, qui lui tenait le bouclier, et puis il y avait un arbalétrier qui lançait des carreaux depuis les créneaux de Chalut, et le sport consistait à ce que l'écuyer les arrête avant qu'il perce Richard. Richard, donc, on était en avril 99, ben, il a fait ce qu'il fallait pas faire, bien sûr, il a été traversé par un carreau d'arbalète, et puis, au bout de quelques temps, il est mort de gangrène. Sa mère a eu le temps de venir à Aliénor d'Aquitaine depuis Fontevraud s'occuper de lui. Alors, mais en attendant cette catastrophe, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Richard a tout repris. Il a écrasé partout en Auvergne, dans le Maine, Philippe Auguste. Enfin, Philippe a tout perdu face à Richard. Et en particulier, on conserve une chanson qu'il a échangée avec le duc d'Auvergne, avec les comtes d'Auvergne, cette fois-ci en occitan, en langue d'oc, où il leur reproche leur tiédeur avec laquelle ils ont défendu donc la belle ville romane de nos jours de Thouars. Alors, à sa mort, Richard a été universellement chanté par les troubadours hein, qui ont écrit des planti en latin. Et juste pour c'est plus que l'anecdote, mais j'ai pas le temps pour étudier ce dossier qu'Alban connaît très bien aussi en tant que spécialiste du roi Arthur. C'est la première fois un troubadour, probablement un poète, compare un roi angevin d'Angleterre, un plantagenet, en l'occurrence Richard, au roi Arthur. Hein. Jusqu'alors, c'était le héros, le roi mythique de leurs ennemis, les Gallois. Alors, quoi conclure? Eh bien, je reviendrai un peu à mon introduction, à la propagande. Est-ce que c'est une notion moderne? Est-ce que c'est une notion qui est anachronique pour le Moyen-Âge? Il me semble au contraire que la diffusion du Sirventès prouve, et puis aussi cette volonté politique de créer, vous l'avez vu pour Guillaume de Longchamp, de créer des ateliers d'écriture, mais surtout des groupes de jongleurs qui diffusent partout sur les places, dans les aulae des châteaux, et puis aussi de bouche à oreille, ces chansons, ces sirventes, par leur automotion, se diffusent partout. Et je pense que là, on a affaire à une vraie propagande. Bien sûr, les médias diffèrent et nous n'avons pas les ondes, nous n'avons pas le numérique ou l'image numérique, mais il y a d'autres formes de faire de la propagande et vraisemblablement, par sa nature, sa brièveté, ce côté très stéréotypé, cette attaque ad hominem très ciblée, très facile à retenir aussi, le côté amusant, on retient facilement la contrefaçon, le pastiche, hein. Et puis aussi la mélodie, eh bien le Sirventès reste le moyen le plus efficace de propagande médiévale, la poésie politique. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci Martin. Je Je vous propose d'applaudir virtuellement.
Merci.
Voilà, donc
Je suis très flatté.
voilà des applaudissements virtuels qui vont arriver.
Merci.
Clap, clap. Voilà, parfait, très bien, merci à tous. Bien, alors merci pour cette présentation. La parole sera maintenant aux étudiants, avant tout, aux collègues qui sont là aussi, bien évidemment, s'ils veulent poser des questions. Mais s'il y a des étudiants d'abord et des étudiantes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole. Ou alors, si vous n'arrivez pas à prendre la parole, à brancher votre micro, etc., à faire apparaître vos questions dans le fil de discussion à gauche de l'écran. Voilà.
Voilà, Camille.
La définition du cirque,
Oui, vous avez raison, hein. Vous m'excuserez. Oui, je reprends tout dès le départ. C'est-à-dire que le terme est très curieux. Il apparaît tout à coup au XIIe siècle dans la poésie des troubadours du sud de la France, et a posteriori, quelques décennies après, quand il réfléchit sur le propre métier. Des troubadours, donc des poètes, proposent des définitions. Et une des définitions qu'ils proposent, c'est celle de l'aspect, si vous voulez, très servile de la chanson, puisque sirventes, servir, sirvens, c'est le serf gendarme, mais c'est aussi celui qui sert. Eh bien, ils proposent soit que l'on sert en seigneur. Hein, ça, c'est important parce que vous êtes à la solde de quelqu'un. Vous êtes jongleur, vous vivez grâce à quelqu'un, à son crochet. Je vous ai parlé de Benoît de Saint-Amour à un moment. Il a reçu une prébende canoniale, donc une rente pour composer l'histoire de Duc de Normandie à la solde d'Henri II, qui voulait prouver que ce n'était pas un faux Normand. Même si son père était Angevin, sa mère Mathilde, la grande Mathilde, c'est quand même une histoire où vous avez des femmes exceptionnelles. Rien que Mathilde et Aliénor, on peut passer sa vie à les étudier. C'est des femmes merveilleuses. Bref, mais il n'était normand que par sa mère, donc il fallait, dans cette société extrêmement misogyne, la preuve, Mathilde n'avait jamais réussi à être couronnée reine d'Angleterre au profit de son cousin Germain, Étienne de Blois. Eh bien, dans cette société, il fallait bien. Donc, pourquoi je vous parle? Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que servir, voilà, on sert. Soit il y a un patron qui vous paie en tant que jongleur, il vous donne déjà le gîte et le couvert, mais il peut vous donner des très belles robes. Hein, le terme de livrée, livrée, ce sont des très très belles robes, souvent avec des signes héraldiques ou emblématiques. Du donateur que vous revendez ensuite, donc des soieries, des étoffes très recherchées. On vous donne des chevaux, on vous donne de tout hein, quand vous êtes jongleur. Donc, mais vous avez besoin de quelqu'un qui vous prenne sous son patronage, vous voyez? Donc, vous servez quelqu'un et vous faites à sa solde des chansons. Ça, c'est la première. Donc, vous le servez d'une certaine façon. Et la deuxième définition, c'est que vous servez, mais ça c'est les philologues du 19e siècle qui ont proposé cette définition, vous vous pliez, vous vous asservissez, vous êtes poète, à un maître, les octosyllabes, hein, c'est ce qu'il y a de plus répandu au 12e siècle, des vers, donc des vers à 8 syllabes, vous utilisez aussi une rime en fin de vers, et puis aussi, quand on dit poésie au Moyen Âge, on parle tout de suite de mélodie. Je vous ai montré des notations musicales tout à l'heure, même si on n'a pas le rythme, bon, on a à peu près une idée de à quoi ça peut ressembler, même si les musicologues ou les musiciens de nos jours doivent introduire une part d'interprétation très très forte hein, pour reconstituer ces chansons. Vous voyez, donc, vous utilisez. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée de chanson comme ça à la mode, mais quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui s'appelait L'importance c'est la rose de Guy Béard, et puis il y avait un humoriste c'était l'époque de la rose des socialistes, qui avait utilisé cette chanson pour voilà dénigrer Mitterrand. Hein, bon, c'était Thierry Lhermitte, je crois. Voilà. Donc il jouait. Donc c'est le pastiché sur, et donc il y a un côté servile aussi puisque vous réutilisez à des buts humoristiques et pour rendre plus agréable à entendre votre chanson un autre maître que celui que vous auriez créé vous-même. Voilà l'explication. Je ne sais pas si je suis plus clair cette fois-ci. Alors, Amaya Buron, est-ce qu'on trouve d'autres termes latins se raccrochant à cette idée de servir le politique dans les sources? Ah oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, bah, c'est une société très hiérarchique. Et donc, chacun sert un supérieur d'une certaine façon. Hein. Je vous ai parlé du terme serviens, serviteur, qu'on traduit par sergent d'armes. Bah, vous avez le terme vassal. Mais là, si je commence à passer en revue tout le vocabulaire de la dépendance, je pense que j'irai un peu loin. Le terme politique pose un problème, hein, parce que vous le savez, c'est un terme qui est très peu utilisé au Moyen-Âge. Hein. Il faut attendre l'aristotélisme, l'arrivée des traductions du grec, enfin d'abord en arabe, puis de l'arabe en langue romane, castillane probablement, et ensuite en latin, aux ateliers de Tolède ou au sud de l'Italie, pour qu'on ait toute l'œuvre d'Aristote qui utilise le terme « politeia », « gouvernement de la cité ». Mais le plus grand traité politique du XIIe siècle s'appelle le Polycraticus, hein, le gouverneur de la cité, certes, mais le terme politicus n'y apparaît pas à ma connaissance. Donc, le terme politique, ça serait plus soit on obéit à son supérieur hiérarchique, avec, vous voyez, tout ce qui relève de la loyauté, de la déloyauté, de la félonie. Moi, ce qui me surprend beaucoup dans cette affaire, c'est la façon dont tout le monde a quitté Guillaume de Longchamp, qui était le chancelier élu par Richard. Tout le monde lui avait prêté serment avant que Richard ne parte. Alors Jean Santerre en voulait à Richard parce que il voulait que son neveu Arthur de Bretagne devienne roi d'Angleterre et non pas lui, mais il a très vite mobilisé tout le monde contre Richard. Donc c'est aussi un problème de service politique, de loyauté. Ça, ce sont des notions qui sont très importantes, peut-être plus que de politique. Mais là, le vocabulaire, pour l'instant, il y a pas beaucoup de choses qui me viennent à la tête. Même le terme propagande apparaît au XVIe siècle seulement. Hein, des propaganda fide, c'est un dicaster, c'est-à-dire un bureau du Saint-Siège qui s'occupe des missions de propager la foi catholique. Donc, tous ces termes sont très modernes. Hein, et au Moyen-Âge, je pense qu'ils ne sont pas si répandus que cela. Mathieu. Alors, Mathieu Plantade, cette pratique de propagande était réservée à la haute aristocratie où des petits seigneurs s'en servaient aussi à leur échelle. Très bonne question. Je pense que c'était très répandu. Hein. Je vous prends un exemple. C'est un seigneur moyen, Bertrand de Born, qui est le plus grand auteur de poésie politique au Moyen-Âge. Bertrand de Born, c'est un seigneur qui n'est pas un très très haut personnage. C'est sûr, il a un château, il est aux lisières du Périgord et du Limousin, mais il est tout le temps à se battre contre son frère, avec lequel il détient son château en co-seigneurie, son frère Constantin. Et puis aussi, il parle, alors il a beau dire que les mercenaires sont à la guerre, c'est que les prostituées sont à l'amour courtois, mais il est tout le temps en train de réclamer de l'argent à Richard Cœur de Lion et impliqué dans ces guerres. Donc, vous voyez, c'est un petit seigneur et pourtant c'est l'auteur le plus important de Cervantes que l'on ait au Moyen-Âge, hein, au point que Dante, qui le détestait, le met en enfer avec sa tête pour lanterne tellement il avait incité, dit-il, à la guerre, ce qui est faux, hein, les Plantagenets, Richard Cœur de Lion, Henri II, Jean, ils n'avaient pas besoin de Bertrand de Born pour se détester les uns les autres. Alors, d'autres souverains occidentaux ont-ils une relation si forte à la poésie ou est-ce une particularité de Richard? C'est une très bonne question. J'essaie de réfléchir. Vous avez Alphonse X de Castille au XIIIe siècle. Vous avez Alphonse II d'Aragon, ou Alphonse Ier de Barcelone et de Provence, hein, qui lui a laissé pas mal de poésie. Il a échangé sur l'amour avec Guiraud de Borneil, un des plus grands troubadours, avec Bernard de Ventadour de son temps. D'ailleurs, il a fréquenté Richard Cœur de Lion. Hein. Richard, quand il était petit, avait été promis avec la sœur d'Alphonse. Hein. Donc, et Henri II a été le tuteur dans leur enfance des fils de Raymond Béranger IV de Barcelone. Hein. Donc, Alphonse II a composé beaucoup de poésie, hein, mais il est de la même génération que Richard, ils se connaissent. Je pense que c'est un phénomène surtout méridional, encore au XIIe, XIIIe siècle. Après, bien sûr, dans les villes du nord de la France, vous avez des gens très... vous avez Charles d'Orléans, bien sûr, mais ce n'est pas un roi. Mais en attendant Charles d'Orléans, je pense que c'est un phénomène méridional. Vous voyez, c'est une façon de briller. Alors, si je voulais être très, très simpliste, vous, les gens du Nord, aimez les tournois, aimez vous taper dessus, puis vous arrivez dans le Midi, dans le cadre de la croisade albigeoise, et vous nous écrasez complètement parce que vous êtes entraînés à la guerre, alors que nous, on passe notre temps à échanger et à improviser des poésies. Voilà, ça fait un peu vision 19e siècle troubadour, c'est plus compliqué que cela. Mais c'est vrai que, alors vous avez Gaz Brûlé, hein, j'exagère, ou le comte de Champagne, mais bon, le comte de Champagne est devenu roi de Navarre. Donc vous avez quelques hauts personnages du Nord, mais des rois, il y en a très peu effectivement, comme Richard ou comme Alphonse Ier de Barcelone, Alphonse II d'Aragon. Alors, le Cervantes occidental, très très bonne question bien sûr. Il y a de la poésie politique partout. Je pourrais vous parler, par exemple, des shouting match que Morgan, c'était un ethnologue américain qui au XIXe siècle est allé chez les Iroquois et il a vu que chez les Unites, il a vu. Non, c'est pas Morgan, c'est un autre. Morgan, c'est pour les Potlatch. Bref, c'est chez les Esquimaux. Parfois, on sait que quand deux tribus sont en guerre, elles se réunissent et il y a une sorte d'échange de vers jusqu'à ce que c'est lui qui est le plus fort, qui fait rire le plus et qui a le plus d'applaudissements, écrase oralement l'autre. Vous voyez, vous lisez l'Iliade ou l'Odyssée, surtout l'Iliade, vous avez des exemples de ce genre de... Des grandes tirades homériques en vers. Très souvent, c'est aussi un exutoire pour éviter la violence, hein, de se lancer des défis. Au XIVe, XVe siècle, il y a un autre phénomène, ce sont les lettres de défis qui sont lues par des héros d'armes. Donc, ces gens aussi aiment bien théâtraliser la violence, hein, ce qui les évite parfois d'en venir aux mains. Donc, je pense que c'est un phénomène qui est extrêmement répandu dans toutes les sociétés. C'est anthropologique, mais l'Occident médiéval a probablement beaucoup abusé du Cervantes, oui. Voilà, bon, je ne sais pas si j'abuse, moi, de...
Non, non, pas du tout, pas du tout. Je peux me permettre de nuancer ce que tu as dit sur le Nord et le Sud.
Oui.
les rois scaldes,
ah, c'est vrai.
Même un phénomène plutôt du Nord. Et donc effectivement la poésie est aussi très présente dans les mondes nordiques comme une activité d'élite et ne me semble pas du tout devoir être opposée à l'entraînement militaire et au goût pour les armes. Et même chose dans le monde arabe d'ailleurs, enfin je veux dire la composition poétique et la virtuosité poétique même, on pourrait dire, s'accommode très bien, à mon avis, d'un entraînement aux armes très poussé. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Si, je suis assez d'accord, tout à fait. Hein. Ce qui est curieux, c'est que l'improvisation de vers est très féminin aussi, hein, parce que souvent, il y a des dialogues d'amour, mais les hommes, ça donne... à la poésie, absolument. Je vous ai parlé de Bertrand de Born. Il a passé son temps à faire la guerre dans le Limousin et dans le Périgourdin. Il a participé à toutes les révoltes des fils d'Henri II, de Richard Cœur de Lion. Donc, c'est un phénomène. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein. puisqu'en plus, c'est plutôt un phénomène de la petite noblesse que de la haute noblesse aussi. Hein, cette noblesse qui brille en société par l'utilisation du verre, absolument. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le chevalier lettré ». Ce n'est pas moi qui dirais que les chevaliers, c'est des brutes épaisses qui pensent qu'à donner des coups d'épée. Non, tout à l'heure, j'ai un peu blagué entre le sud et le nord, mais c'était une blague. Mais ce qui est toujours surprenant, c'est qu'il y a très peu de mentions de tournois dans le sud, et puis aussi la façon dont Simon de Montfort, qui était aussi un peu normand du côté d'Évreux, par cette branche-là, a réussi à écraser complètement le fils d'Alphonse II d'Aragon et le comte de Toulouse, parce qu'il y avait un savoir-faire militaire supérieur probablement. Mais aussi, c'est très étonnant, le nord-sud, c'est les trouvères sont moins nombreux. On a dans les 250 troubadours et à peine une trentaine de trouvères pour le 12e, 13e. En revanche, ce qui est supérieur dans le nord, en Languedoc, c'est la présence des notations musicales dans les manuscrits, beaucoup plus que dans le sud. Donc ça, c'est des comparaisons hein, que l'on peut établir. Et puis aussi, bien sûr, il y aura Guillaume de Machaut, il y aura la polyphonie qui apparaîtra dans le Nord. Non, mais là, c'est le genre de comparaison un peu absurde. Et comme tu dis très bien, c'est des phénomènes universels qui font partie des élites, de maîtriser la parole, d'être des maîtres de la parole. Parce qu'il faut aussi savoir prononcer des harangues devant ses troupes, par exemple. Il faut savoir aussi négocier, participer à des palabres, une fois les opérations militaires fini. Donc, c'est des gens qui sont relativement bien formés. Et puis aussi, ils sont dans un monde que nous avons perdu, qui est un monde de l'oralité. On sait que les chanteurs j'ai oublié le terme technique, en Serbie, quand l'imprimerie s'est répandue au 16e, 17e, même très tard, hein, au 19e siècle en Serbie, il y avait des compteurs professionnels qui retenaient des dizaines de milliers de vers, et tout ça s'est disparu avec l'écrit. Hein. Il y a même un mythe de Platon là-dessus, sur les méfaits de l'écriture. Donc c'est vrai qu'ils ont une possibilité de versifier, comme encore chez les Basques, hein, les Bezolai, ils se réunissent tous les ans, ils font des concours d'improvisation, de poésie basque. Bon, parce que c'est des civilisations où l'écrit est encore très secondaire. Donc, dans ces types de sociétés, oui, la capacité d'improviser de vers, c'est très recherché, absolument. Hein. Oui, merci.
Il reste une dizaine de minutes. Y a-t-il d'autres questions cette fois-ci, pas nécessairement de la part des étudiants.
Alors, il y a Fabien. Merci Fabien d'être là. Oh là là, quelle patience. Vous m'avez écouté. Alors, est-ce que j'ai Cervantes concernant Richard et d'autres types de textes, et notamment les exemplats, est-ce que des motifs, des images circulent? Tout à fait. Il n'y a pas de compartiment étanche. Je vais vous donner un exemple. C'est Il Novellino. Il Novellino, c'est un recueil de contes de la fin du XIIIe siècle, rédigé en Toscane, en italien donc. Et il y a ce thème un thème qui revient dans trois ou quatre anecdotes, qui raconte l'histoire d'Henri II. Henri II, le vieux roi, le père de Richard Cœur de Lion, contre lequel Richard se révolter, et puis ses trois fils, Geoffroy, duc de Bretagne, Jean Santerre aussi, et Henri le Jeune, bien sûr, et ces anecdotes portent sur le thème de la prodigalité et de l'avarice. Henri II est avare, il garde ses trésors dans sa chambre, et Richard Cœur de Lion, Henri le Jeune, vont lui voler les trésors pour les distribuer aux chevaliers. Donc le thème de la prodigalité, qui est très présent dans l'œuvre de Bertrand de Born, par exemple, on le retrouve en Italie du Nord. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Dante lui-même cite explicitement à la même époque Bertrand de Born. Donc, on voit qu'on peut passer des contes brefs, des exemplats, à la poésie des troubadours, d'autant plus que la poésie de troubadour est, comme je vous l'expliquais enfin brièvement, avant de réciter, de chanter, chaque troubadour racontait la vie, ce qu'on appelle vida en occitan, la vie, du troubadour. Et très souvent, dans ces vies, il y a des structures narratives qu'on retrouve ailleurs. Hein. Vous avez un récit chanté très populaire dans le nord de la France au XIIe siècle, qui est le lait de l'ignore ou de l'ignoré, où le héros, à force de séduire des femmes, à la fin, les femmes se vengent et le tue et mange entre elles son cœur, donc une sorte de cannibalisme rituel. Mais vous avez aussi, au début d'une vida de Guillaume de Cabestagne, un troubadour catalan, l'histoire qu'il chantait une dame mariée, que le mari, qui est un grand seigneur, l'a appris et qu'il l'a tué, il a fait manger son cœur par son épouse qui le trompait avec lui. Vous voyez, donc là vous avez le même type de conte qui circule aussi bien dans une vida d'un troubadour et puis ces vidas très souvent partent de ce qui est dans le poème et ça donne lieu à des récits plus complets. Donc oui, il y a des passerelles évidemment, hein. Alors, jusqu'à chez des gens comme Césaire de Heisterbach, oui. Alors, Césaire de Heisterbach, il y a des questions. Oui, il y a un exemple, un conte qui apparaît chez Césaire, par exemple, qui apparaît aussi dans la légende arthurienne. C'est l'histoire de, en tout cas, il donne le nom de Galgano, qui est aussi Gauvin, à l'un de ses chevaliers qui laisse son épée à Heisterbach où il devient moine, donc un rite d'abandon de la vie publique. Et c'est étonnant que Césaire utilise aussi cette anecdote, alors qu'on sait qu'il appelle Galgan, qui c'est probablement Gauvin ou Galade dans la légende arthurienne, mais il y a un saint Galgano un peu plus tard qui est aussi cistercien, enfin qui est ermite, mais dont l'histoire a été rédigée par des cisterciens, et c'est aussi la même idée, hein. Il donne son épée, il la remet sur l'autel. Bon, il y a ce genre de jonction. Alors, quant à Philippe Auguste, on a longtemps cru que c'était un béotien, parce qu'il y a un texte de Rigor, le moine qui tenait sa biographie, qui dit qu'il détestait les jongleurs, il les considérait comme des sangsues, immoraux, que lui, il était très religieux, qu'il s'occupait pas de jongleurs. Bon, il y a un article récent dans un colloque qu'on a fait sur Philippe Auguste, une collègue roumaine, Catalina Girbea, qui a repris tous les textes où il pourrait y avoir des renvois à Philippe Auguste. Et finalement, il n'était pas si béotien, si philistin, comme disent les Anglais, enfin, si hostile aux lettres, qu'on pourrait le croire, hein. Donc, si c'est le sens de votre question, donc c'est dans le colloque autour de Philippe Auguste qui a été publié au Classique Garnier. Mais c'est vrai que il y a toujours la circulation de ces chansons, c'est impressionnant parce que les jongleurs circulent beaucoup et puis aussi les chevaliers eux-mêmes circulent et ce sont des conteurs et ils savent animer des soirées aristocratiques. Donc ces structures narratives, ces récits se répandent d'une façon très très large en Occident. Alors Pierre, oui, très bonne question. Qui a eu l'idée de coucher par écrit ses sirventes, alors que c'est ce qu'il y a de plus éphémère, une chanson politique? Alors on a eu beaucoup de chance, surtout en Italie au XIVe siècle, le bilinguisme italien, le prestige de la langue d'oc dans les cours du nord ou du sud de l'Italie, hein, dans le royaume de Naples. Donc même il y a le chansonnier de Charles Ier d'Anjou quand il a conquis le royaume de Naples, où on conserve beaucoup de chansons de troubadours. Mais c'est assez mystérieux, oui. Pourquoi tout à coup ces feuilles volantes ou ces chansons qui étaient tout simplement mémorisées par les troubadours ont été copiés? Bon, c'est des scribes auxquels nous sommes redevables. C'est une partie infime par rapport aux 2500 chansons d'amour, hein. Ça peut faire 200 sirventes à tout casser. et certains répertoires parce qu'ils étaient très prestigieux, liés au savoir-faire de Bertrand de Born, qui en plus Bertrand reprend des thèmes universels hein, comme le goût de la guerre, le plaisir de la guerre. Vous avez peut-être commenté avec vos étudiants de licence la chanson Bertrand de Born dit qu'il est ravi parce qu'il y a le printemps qui commence. Ah, très bien, il va commencer à compter fleurettes à son ami. Pas du tout. Il est content parce qu'il y a les pavillons de guerre, parce qu'il y a les chevaux qui vont commencer à hennir, parce qu'on va commencer à aiguiser les épées. Donc c'est la guerre. Vous voyez, ces genres de chansons-là, elles sont conservées plus facilement. Alors quand elles ont des allusions politiques très précises, c'est très surprenant qu'on les ait gardées. Mais on a malgré tout de la chance, effectivement, parfois, et c'est comme ça qu'on a quelques 250, allez, sur 2500 chansons d'amour, ben, l'amour est universel, et ça reste, la guerre, très souvent, le politique, c'est très pointu. Alors, comment on les a conservées? Ben, dans des très beaux manuscrits du 13e, 14e siècle, des chansonniers, comme on dit, hein, chacun a un sigle, et puis là, actuellement, les collègues de l'Université de Pise, je pense, ou enfin, il y a un site superbe où systématiquement toutes les études sur chaque chanson de troubadour sont couchées par écrit. Vous savez, c'est un des malheurs de la recherche sur la Languedoc en France. On a une littérature dans le Languedoc tellement riche et qui est incomparable au reste de l'Europe qu'il n'y a que les Italiens et les Catalans pour s'intéresser à la poésie de troubadour. Il y a très peu de spécialistes en France, mais en Italie, du très très bon travail, surtout que, comme je vous l'ai dit, les manuscrits sont souvent restés en Italie. Voilà, le texte et l'oralité, c'est vrai, c'est très riche comme sujet. Ah, mais ben voilà, Fabien a commenté le texte aux étudiants aussi. C'est un texte très impressionnant. Alors, Bastien, peut-on considérer que d'autres écrits poétiques distincts de Cervantes, l'histoire de Guillaume le Maréchal, sont des œuvres de propagande mettant en valeur? Alors, vous savez, Guillaume le Maréchal, un seul manuscrit découvert par hasard, comme toujours, chez un collectionneur particulier au XIXe siècle, un manuscrit qui est d'époque, hein, qui est du XIIIe siècle. Alors, bien sûr, il y a de la propagande, mais c'est une propagande qui a été très peu diffusée. C'était un peu l'histoire que les enfants de Guillaume ont voulu faire en son honneur pour se remémorer ses hauts faits. Ils ont demandé à Jean d'Herly de faire le travail. Mais c'est une œuvre de propagande qui a très, très peu bien marché. Souvent l'historiographie aussi, même en langue vernaculaire, je suis surpris par tout l'effort des rois d'Aragon du XIVe siècle à faire écrire à Raymond Montanet ou à Bernard Desclot, fin XIIIe, leur histoire. Et on a conservé très, très peu de manuscrits. Donc l'historiographie, les histoires de famille, ça marche très peu. Contrairement aux chansons courtes, aux chansons politiques qui ont pu se diffuser beaucoup plus. Voilà, mais il faut que je m'arrête là. Merci beaucoup Alban, merci pour vos questions.